Cet après-midi,
Oh, le micro, Charlie.
cet après-midi, nous avons devant nous en fait un sujet qui est très vaste et très compliqué. On a pu échanger avec Jean-Philippe lorsqu'il m'a parlé de pouvoir réfléchir aux ces trois livres essentiellement de Salomon, donc des Proverbes, de l'Ecclésiaste et du Cantique des Cantiques, et de pouvoir essayer d'y trouver dans ce livre quelque chose qui rentre dans le contexte de notre vie actuelle. Je pense que vous sentez bien que nous sommes dans un monde qui part à la dérive. On a pu en parler, en entendre quelque chose hier soir par rapport à ce vaste sujet qui est la tolérance. Mais au-delà de ce sujet, il y a aussi des lois qui rentrent en action. Et des décisions qui se prennent, même dans l'environnement religieux, par rapport à ces lois. Et il y a quelque chose qui m'a énormément bouleversé ces derniers temps, c'était par rapport, je pense, à ce que beaucoup savent, cette décision qui a été prise. Par l'Église protestante. Et un pasteur a dit derrière, eh bien, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, qu'ils s'en aillent. De toute façon, personne s'en ira. Alors oui, il y a eu des protestations qui se sont fait entendre, il y a eu des voix, mais personne s'en va. Alors, on a pu hier soir entendre des choses extrêmement fortes sur les certitudes que le Seigneur veut nous donner et auxquelles il faut que nous nous attachions. Alors, dans ces livres, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Mais j'aimerais d'abord au départ placer peut-être ce livre un peu dans le contexte et particulièrement. Par rapport à celui qui en a écrit la majorité, à savoir Salomon. Pour voir en fait les impacts de nos décisions et particulièrement par rapport à cette question de la sagesse. Alors, je propose d'abord de lire quelques versets dans le deuxième livre des Chroniques. Au chapitre 9. Au verset 13, il nous est dit: et le poids de l'or qui arrivait à Salomon dans une année était de 666 talents d'or, outre ce qu'apportaient les commerçants ambulants, les trafiquants, ce qu'apportaient à Salomon tous les rois de l'Arabie et les gouverneurs du pays, en fait l'or et l'argent. Au verset 20, et tous les vases à voir du roi Salomon étaient d'or, et tous les vases de la maison de la forêt du Liban d'or pur. L'argent au jour de Salomon n'était compté pour rien. Verset 22, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Et tous les rois de la terre recherchaient la face de Salomon pour entendre sa sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et ils apportaient chacun son présent, des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux, des mulets, chaque année le tribut de l'année. Verset 29, et le reste des actes de Salomon, les premiers et les derniers, ne sont-ils pas écrits dans les paroles de Nathan le prophète et dans la prophétie d'Akijah le Silonite et dans la vision de Gédéon le voyant touchant Jéroboam, fils de Nébat? dans le premier livre des rois. Justement, suite à cette vision de ce prophète au chapitre 11. Mais le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon. Verset 9, et l'Éternel eut de la colère contre Salomon parce que son cœur s'était détourné de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui s'était révélé à lui deux fois. Il lui avait commandé à ce sujet de ne pas aller auprès d'autres dieux, et il ne garda pas ce que l'Éternel lui avait commandé. Et l'Éternel dit à Salomon, « Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas gardé mon alliance et mes statuts que je t'ai commandés, je t'arracherai certainement le royaume, et je le donnerai à ton serviteur. » C'est après que l'on voit cette rencontre, justement, avec ce prophète. Il y a un autre passage dans le livre de Néhémie, au chapitre 13. Et au verset 23, en ce jour-là aussi, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdéloniennes, ammonites et moabites, et leurs fils parlaient à moitié l'asdonien et ne savaient pas parler le juif, mais selon la langue de l'un ou de l'autre peuple. Je les querellais et je les maudis et je bâtis quelques hommes d'entre eux et je leur arrachai les cheveux et je les fais jurer par Dieu en disant « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez pas leurs filles pour vos fils ni pour vous-même. » Salomon, roi d'Israël, n'a-t-il pas péché en cela? Et puis quand on va dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 2, au verset 4, j'ai fait de grandes choses. Je me suis bâti des maisons. Je me suis planté des vignes. Je me suis fait des jardins, des parcs. J'y ai planté des arbres à fruits de toute espèce. Je me suis fait des réservoirs d'eau pour arroser la forêt où poussent les arbres. J'ai acquis des serviteurs, des servantes. Et j'en ai eu qui sont nés dans ma maison. Et j'ai eu des troupeaux de gros et de menus bétail en grand nombre, plus que tous ceux qui ont été avant moi à Jérusalem. Je me suis aussi amassé de l'argent et de l'or, et des trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils des hommes, une femme et des concubines. Je suis devenu grand, je me suis accru plus que tous ceux qui ont été avant moi à Jérusalem, et pourtant ma sagesse est demeurée avec moi. Et quoique mes yeux aient désiré, je ne les en ai point privés, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur s'est réjoui de tout mon travail, et c'est là la part que j'ai eue de tout mon travail. Je me suis tourné vers toutes les œuvres que mes mains avaient faites, vers tout le travail dont je m'étais travaillé pour les faire, et voici, tout était vanité, poursuite du vent, et il n'y avait aucun profit sous le soleil. Alors quand on voit ce contexte, et qu'on lit le livre des Proverbes, c'est difficile. Le livre du Proverbe, qui est un livre dont il est beaucoup parlé, de la sagesse. Et il est vrai que si on aborde toujours la parole de Dieu en référence par rapport à l'homme qui l'a écrit, on risque de faire fausse route. Parce que si on regarde à ce que cet homme a eu, il a demandé quelque chose qui a plu à l'Éternel. Il a demandé de la connaissance, il a demandé de la sagesse, il a demandé de l'intelligence. Cela lui a été donné. Mais voilà que cette sagesse que Dieu a placée dans son cœur, il l'a mis à profit autour de lui. Mais au final, derrière lui, qu'est-ce qui reste? Un peuple qui se divise. Des gens qui ne savent plus où ils en sont. C'est triste. Des gens qui sont perdus. Et dans le premier livre des rois, au chapitre 12, il nous est dit même que parmi les gens du peuple, ils ont dit, ton père, Roboam, nous a mis un joug qui était dur. Alors comment comprendre entre quelqu'un qui agissait avec sagesse et puis finalement un peuple qui dit, mais c'était dur, c'était un joug qui était dur. Alors le disait-il en provocation, parce qu'il ne pouvait pas supporter, bien que ce que Salomon pouvait donner était justice, paix, apparemment, ou est-ce que c'était vraiment une réalité? Il n'en reste pas moins que le peuple est divisé. Et que c'est un résultat que Dieu donne dans sa parole, suite au comportement justement de Salomon. Alors la conclusion, elle est très simple, c'est qu'on peut être sage, rempli de la sagesse de Dieu, et partir à la dérive. C'est compliqué. Et ça devient difficile. Alors comment être rempli de cette sagesse, discerner cette sagesse de Dieu et ne pas partir à la dérive? Alors, en parcourant ce livre des Proverbes, j'ai trouvé beaucoup de... Et chacun peut trouver, il y a beaucoup d'éléments qui sont mentionnés dans ce livre. Ce livre, je me suis dit, on ne peut pas l'aborder, justement, comme je disais, par rapport à ce que cet homme a vécu, mais bien par rapport à ce que Dieu veut nous communiquer, par rapport à ça. Et, comme on l'a chanté, il y a de la richesse dans la parole de Dieu. Alors, où trouver la richesse dans ce livre? Qui est vrai, qui est un peu déroutant, des fois, quand on le lit. Il y a énormément de thèmes dans ce livre. Un thème très important, la vie. Il y a aussi la paresse, le don, la langue, la manière de communiquer, la manière de se comporter en couple. Il y a la connaissance, l'humilité, l'écoute, la vérité, la douceur, le cœur. Ah, le cœur. Le cœur revient assez souvent. La sécurité, le prochain, la relation avec le prochain, comportement vis-à-vis du prochain, le pauvre, la prière, plein de sujets qui sont là. Et tous ces sujets ont en fait quelque chose de merveilleux, c'est qu'on retrouve le pendant dans la pleine réalisation de la vie du Seigneur Jésus. Et quand on regarde, on prend un sujet et que l'on va voir dans le Nouveau Testament, tout ce qui nous en est développé, on trouve des richesses et des merveilles. Alors je voudrais qu'on regarde juste simplement un seul sujet qui me semble aujourd'hui nous fait beaucoup défaut. C'est le bon sens. C'est simple, mais il me semble que c'est quelque chose qui nous fait beaucoup défaut. Je réfléchissais à quelque chose qui est extrêmement simple. Ici, on est dans un milieu agricole. On ne récolte pas avant d'avoir fumé, labouré, semé, désherbé. On ne fait pas l'envers. Aujourd'hui, on est dans une société où il faut tout, tout de suite. Tout, tout de suite. Et c'est très facile. Nous savons que aujourd'hui, la moyenne dans un foyer d'équipement connecté dans le monde environnant, en multimédia, c'est au moins 7 équipements. Et que demain, on en prévoit 13, mais dans l'année qui vient. Donc, tout cet environnement qui est là autour de nous fait que lorsque l'on a besoin de quelque chose, on appuie, on se connecte et on a la réponse. Où est la réflexion? Il n'y en a plus. Et j'ai lu récemment qu'il y a quelqu'un qui disait que le manque de réflexion tue la connaissance. Lorsque l'on ne prend plus le temps de réfléchir, de chercher, on perd de la connaissance, parce que c'est l'information qui vient vers nous tout de suite, qui tue cette démarche de réflexion, de compréhension et de bon sens. Lisons quelques versets dans le premier chapitre. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour discerner les paroles d'intelligence, pour recevoir l'instruction dans la sagesse, la justice, le jugement et la droiture, pour donner aux simples de la prudence, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Le sage écoutera et croîtra en science, et l'intelligence et l'intelligent acquérera du sens pour comprendre un proverbe et une allégorie, les paroles des sages et de leur énigme. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Dans la deuxième épître de Timothée, au chapitre 1, on peut lire que Dieu nous a donné un esprit de bon sens. Alors, ce n'est pas traduit. En 2 Timothée 1, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. Et la note nous dit de sobre bon sens. L'esprit que Dieu nous a donné nous engage justement dans cette réflexion, dans les décisions que l'on a à prendre dans notre vie, avec bon sens, pas à l'envers, avec réflexion. Et cela, dans la crainte, c'est un esprit de crainte, pas dans un esprit de crainte qui asservit, mais dans un esprit de crainte qui libère, parce que c'est de la crainte qui est mue par l'amour pour le Seigneur, dans ce désir de lui plaire, de rechercher à lui plaire. Oui, que cet esprit puisse vraiment m'animer dans toutes mes décisions et dans tout ce que le Seigneur place devant moi. Le bon sens dans ce que il me donne le matin, la journée, dans mes contacts avec mes collègues au travail, avec mes voisins, en premier avec ma famille. On peut être emporté par cette pulsion intérieure qui fait qu'on oublie finalement le bon sens. Au chapitre 3, au verset 1, « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils t'ajouteront un prolongement de jours et des années de vie et la paix. » Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la tablette de ton cœur, et tu trouveras la faveur et la bonne sagesse, ou le bon sens selon les traductions, aux yeux de Dieu et des hommes. Bonté et vérité sur la tablette de mon cœur pour trouver du bon sens. Bonté et vérité. Ah, cette bonté, c'est quoi la bonté? C'est l'amour en action. Cette bonté qui est un fruit de l'esprit que l'on trouve en Galates 5 et qui résulte de cette liberté que le Seigneur veut placer dans nos cœurs. 4, 5, verset 13. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, n'usez pas de la liberté comme une occasion pour la chair, mais par amour, servez-vous l'un l'autre. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si vous mordez, vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. Mais je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous vouliez. Et puis on a toute une série qui sont les œuvres de la chair, et que l'on retrouve complètement décrite en Proverbe 6, dans les versets 16 à 19. Étrange analogie. J'aimerais que l'on s'arrête un peu sur cet aspect qui est cette bonté dans la liberté dans lequel le Christ nous a appelés. Aujourd'hui, dans le bon sens, on est appelé à être libre, à s'accomplir soi-même. Ce n'est pas une philosophie nouvelle, ça date de Nietzsche, de Camus, de Sartre. S'accomplir soi-même va pouvoir enfin libérer. Faites tomber toutes les barrières qui sont autour de vous et vous serez libre. C'est la plus grande des impasses. Être libre, c'est consentir à ce que l'on n'a pas choisi. Consentir à ce que l'on n'a pas choisi. C'est extrêmement difficile. Parce que c'est le contraire à ce que à notre pensée et à la pensée de ce monde, à la sagesse de ce monde. Accepter ce que l'on ne souhaiterait pas, mais l'accepter comme venant de Dieu. C'est ça être libre. Et y découvrir, l'accueillir et y découvrir la richesse que le Seigneur veut nous donner. Et dans ce verset, il nous est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aimerais simplement aussi que l'on réfléchisse à cette expression où l'on est dans un amour très expansif vis-à-vis de, qui a besoin de se manifester vis-à-vis de notre prochain, et qui est une bonne chose, qui doit nous animer intérieurement, qui doit m'animer intérieurement. Mais il y a ce petit verset, comme toi-même, comme moi-même. Chers amis, vous avez besoin, et nous avons besoin, chacun, de nous sentir entre les mains du Seigneur, avec ce que nous avons et avec ce que nous n'avons pas, mais avec tout ce que est à notre disposition, et de pouvoir le mettre à disposition des autres, le partager. Je suis toujours impressionné de voir des personnes qui sont sur des fauteuils, qui ne peuvent se mouvoir. Alors qu'on est dans une société de mouvement, d'action, il faut faire pour paraître. Il y a des gens qui ne peuvent rien faire physiquement, parce qu'ils ne peuvent se mouvoir, parce qu'ils sont sur un fauteuil. Mais le Seigneur ne regarde pas ce que l'on fait, et ça ne l'intéresse pas. Il regarde ce que nous sommes. Intérieurement, c'est ce qui l'intéresse. Et cela m'interpelle profondément. Seigneur, tu attends chaque jour de moi que je sois un instrument entre tes mains. Et que je ne sois pas dans une démarche de comment je vais paraître, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Mais qu'est-ce que toi, tu vas faire de moi aujourd'hui? En Proverbe 6, au verset 32, nous est dit quelque chose de complètement différent. Celui qui commet adultère avec une femme manque de sens. Et celui qui le fait détruit son âme. Est-ce qu'on s'est arrêté un peu sur cette, quelquefois sur ce passage-là? Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on a besoin de s'accomplir soi-même. Donc dans l'accomplissement de soi-même, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de barrière même dans la vie conjugale, ou dans la vie de pureté pour un jeune homme, une jeune fille qui n'est pas mariée. Ça n'existe plus. C'est dépassé. Cher Joël, vous avez un vrai combat. Un combat qui, dont on en mesure quelque peu la dimension. Mais si vous ne voulez pas détruire votre âme, restez pur. Et s'il y a un couple ici qui pense qu'il peut y avoir autre chose que ce qui est vécu dans le couple, vous allez détruire votre âme. Choisissez. Une âme détruite, comment la remonter? Au chapitre 8, verset 1, « La sagesse ne crie-t-elle pas ? Et l'intelligence ne fait-elle pas retentir sa voix au sommet des hauteurs, sur le chemin, au carrefour, elle se tient debout. À côté des portes, à l'entrée de la ville, là où l'on passe pour entrer, elle crie. À vous, hommes, je crie, et ma voix s'adresse aux fils des hommes. Vous, simples, comprenez la prudence, et vous, sots, comprenez qu'est le sens, le bon sens. Écoutez, car je dirai des choses excellentes. Et l'ouverture de mes lèvres prononcera des choses droites. Mon palais méditera la vérité, et la méchanceté sera une abomination sur mes lèvres. Toutes les paroles de ma bouche sont selon la justice. Il n'y a rien en elles de pervers ni de tortueux. Elles sont toutes claires pour celui qui a de l'intelligence. » Est-ce que les paroles du Seigneur sont claires pour nos cœurs? On est dans un monde où tout se discute. Rien ne s'accepte, et surtout n'accepter, c'est le message, ne rien accepter sans l'avoir éprouvé, discuté. Toutes mes paroles sont claires. On l'a vu hier soir. Toutes ces paroles sont vérité. La parole du Seigneur est vérité, justice, droiture. Écoutez. Chapitre 9, verset 13. La femme folle et bruyante, elle est sotte, il n'y a pas de connaissance en elle. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur son trône, dans les lieux élevés de la ville, pour rappeler ceux qui passent sur la route, qui vont droit leur chemin. Qui est simple, qu'il se retire ici. Et celui qui est dépourvu de sens, elle dit, les eaux dérobées sont douces et le pain mangé en secret est agréable. Alors ça peut être pris dans, me semble-t-il, dans deux sens. Dans un sens, comme on l'a dit, simplement dans, par rapport à des relations entre hommes et femmes. Mais cette femme folle et bruyante, dans la parole de Dieu, il nous a souvent parlé de cette activité, de cette pression qui est autour de nous, qui est en fait, ni plus ni moins, le travail de l'ennemi et qui sert toujours, qui essaye toujours de nous appâter, de nous détourner, de nous attirer à lui pour pouvoir nous détourner de la pensée du Seigneur et de sa parole. Et on s'aperçoit qu'elle se tient qu'au même endroit que la sagesse, dans les villes, sur les routes, à l'entrée des maisons, à l'entrée des portes. Donc on est dans un environnement très bruyant, où il y a la voix de la sagesse du Seigneur qui nous parle, et puis il y a la voix de tout ce qui nous entoure. Est-ce qu'on sait fermer nos oreilles à toutes ces voix qui ne viennent pas de la voix du Seigneur? Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Je parlais des éléments connectés que l'on a aujourd'hui dans nos familles, dans nos foyers. Je m'aperçois que l'on est dans un endroit où le téléphone ne passe pas. On n'a même pas Internet, on n'a rien. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel niveau on est dépendant. Mais c'est une grâce de pouvoir s'en séparer. Et de pouvoir comprendre que on peut utiliser ces choses-là, parce qu'elles sont précieuses, elles sont utiles, mais ne pas en devenir addict, dépendant, de façon à ce que elle ne soit pas, cela ne vienne pas une voix qui nous éloigne du Seigneur, mais que l'on puisse rester à l'écoute de la voix du Seigneur. Au chapitre 10, au verset 21, il nous est dit que les lèvres du juste en repaissent plusieurs, mais les fous mourront faute de bon sens. Le manque de bon sens se disperse, mais les paroles de celui qui dépend du Seigneur rassemblent. Les lèvres du juste repaissent. Nous avons là, on a là dans ce verset un peu un condensé du psaume 22. Enfin, une image un peu du psaume. Les lèvres du juste en repaissent. C'est le berger qui paie ses brebis. Et en fait, cette question, c'est est-ce que dans nos relations, dans nos paroles, nous sommes dans cette démarche, en fait, de berger? On se posait la question il n'y a pas très longtemps, c'était à la Mignon, pour savoir si on n'avait pas un peu tous cette mission de berger ou si c'était quelque chose qui se revenait uniquement à quelques frères ou quelques sœurs. C'est un service qui revient à tous, d'avoir cette mission de berger vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Au chapitre 15 et au verset 21, il nous est dit: la folie est la joie de celui qui est dépourvu de sens, mais l'homme intelligent règle ses bas. Où est notre joie? C'est un autre sujet. Où est notre joie? Il y a un prêtre qui travaille sur la décharge de Manille aux Philippines, où il y a des milliers de personnes qui vivent dans un milieu où personne d'entre nous voudrions être. Et il s'occupe des enfants essentiellement. Et ce qui le surprend le plus, c'est la joie qui anime les enfants. Quand on interroge un enfant et qu'on lui demande si tu avais de l'argent, que ferais-tu? Et si tu pouvais sortir de cet endroit, que ferais-tu? Sa réponse première, c'est si on pouvait avoir une maison décente pour mes parents, pour maman, papa et mes frères et sœurs. C'est bouleversant. Je suis sûr que, et moi le premier, la première réflexion, c'est, eh bien, je pense à une résidence secondaire, à changer ma voiture, à faire un truc. Voilà. la réponse d'un enfant. Quelle sagesse! Seigneur, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages, mais que tu les as révélées aux petits-enfants. Quelle sagesse! Alors, il y a plusieurs joies dans nos vies. Il y a les joies de ce que l'on peut, de ce que l'on vit, de ce que l'on peut recevoir de manière très naturelle. Il y a beaucoup de joie d'être ensemble, en famille, de pouvoir partager des moments. Mais il y a aussi la joie de donner, qui est déjà un deuxième niveau. Et puis le troisième niveau, qui est la joie de Christ, de Jean 15. Afin que votre joie soit accomplie. Je peux lire en Matthieu 20. Au verset 10, donc c'est juste quelques versets au verset 10, et quand les premiers furent venus, ils croyaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. Et l'ayant reçu, ils murmuraient contre le maître de maison, disant, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as fait égaux à nous qui avons porté le fait du jour et de la chaleur. Et lui répondant, il dit à l'un d'entre eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas tombé d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Mais je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. C'est un passage qui nous montre clairement que notre joie ne doit pas être basée sur la récompense que l'on peut attendre, que l'on estime par rapport à ce que l'on a fait, mais tout simplement dans ce que le Seigneur nous a accordé d'être. Et je terminerai par dans le Proverbe 19, au verset 8. Celui qui acquiert du sens aime son âme, celui qui garde l'intelligence, c'est pour trouver le bonheur. Aimer son âme, on l'a vu, quiconque. Aimez-vous les uns les autres, aimez ton prochain comme toi-même, aimez son âme. C'est important dans un monde où l'on est souvent, et je suis toujours très touché de rencontrer des jeunes qui s'aiment pas, qui sont désorientés, ayant tout à leur disposition autour d'eux, et qui me disent « je suis bon à rien ». Qui me disent « j'en ai marre de l'élitisme ». Il me semble que pour être quelque chose, que pour pouvoir paraître et être quelque chose, il faut que je sois au moins à ce niveau, que je puisse atteindre ce niveau d'études et que je puisse... Quelle tristesse, quel désarroi dans ces âmes. En Matthieu 25... Quand le Seigneur parle, ce sera en parlant du royaume, quand il dit, quand vous l'avez fait à l'un de ses petits, donnez un verre d'eau, vêtir. Quand j'étais en prison, on m'avait visité. Alors quand on pense des prisons, on pense qu'uniquement ceux qui sont en prison, derrière des barreaux. Il y a peut-être des gens ici, qui sont derrière des barreaux dans leur âme. Que de choses autour de nous, devant nous. Et toutes ces personnes diront, mais quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, Seigneur? Quand est-ce qu'on t'a vu avoir soif? On ne s'en est même pas rendu compte. Et le Seigneur dit, vous me l'avez fait à moi-même. Le Seigneur Jésus se voit en chacun de nous. Est-ce que l'on a conscience que on est cette habitation du Seigneur? et que lui s'identifie à chacun de nous. Et dans ce que l'on peut donner, faire, avec ce que l'on n'a pas, avec ce que l'on a, tout simplement, autour de nous, on le fait comme pour le Seigneur. Alors ne soyons pas paresseux, c'est un sujet de ce livre, et j'aimerais terminer sur cette merveilleuse image qu'il y a dans les fourmis, dans le Proverbe 30. Ce qui est sage et qui est vraiment un encouragement pour nous. Il y a quatre choses petites sur la terre, Proverbe 30, verset 4, qui sont sages entre les sages, les fourmis, peuple sans force, et qui préparent en été leur vivre. Les damans, peuple sans puissant, et qui ont placé leur maison dans le rocher. Les sauterelles n'ont point de roi, mais elles sortent toutes par bandes. Saisis le lézard avec les mains, il est dans les palais des rois. Regardez une fourmilière, arrêtez-vous. Tout le monde travaille. Il n'y a pas de chef. Aujourd'hui, même sous la pression du monde, il faut qu'il y ait un chef. Et on court après les chefs. On court après ceux qui parlent bien, après ceux qui ont de la prestance. Regardez une fourmilière. Il y a une fourmi qui n'arrive pas à porter un brin de nourriture. La première fourmi qui passe, elle s'arrête. Elle l'aide à franchir l'obstacle. Et elle continue. Et elle revient et elle va continuer. Une cohésion, une liaison entre chacun. Une construction qui se fait à côté. On attend toujours, peut-être, dans la place de nos églises, c'est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'on se connaît tous dans notre église? Et quand je parle de connaître, ce n'est pas savoir mettre un nom. Si déjà on sait mettre un nom, c'est bien. Mais c'est plus que cela. C'est avoir partagé, connaître les difficultés que chacun peut porter pour pouvoir les porter dans la prière. Ensemble, connaître les combats. On cherche toujours à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, alors que souvent, c'est quand même déroutant, on ne se connaît même pas, ou on pense se connaître. Regardons cet exemple des fourmis, c'est très riche. Et puis, les sauterelles, elles n'ont point de roi, mais elles sortent du monde. Point de roi. Le peuple voulait un roi. L'homme veut toujours un roi, il veut toujours une référence. Où est notre référence? Christ et Christ lui-même, et lui seul.
On pourrait chanter debout pour se détendre le cantique 196.
Le cantique 196.